Monsieur Chevdis, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous, vous avez participé au Hirak à partir du premier jour jusqu'à aujourd'hui. Vous décriviez-vous l'évolution du Hirak sur ces 41 semaines?
En fait, le Hirak n'a pas évolué de façon linéaire, en ce sens qu'il y a eu plusieurs temporalités, plusieurs temps. Le premier temps, ça a été l'incertitude. Le deuxième temps, c'est que ce mouvement de foule, qu'on peut l'appeler, cette révolte, avait comme ligne directrice, c'est s'opposer au cinquième mandat. Les premières semaines, c'était l'opposition au cinquième mandat. Une fois cette option tombée, on est passé à la deuxième temporalité, à savoir que du rejet du cinquième mandat à la demande de changement de tout un système. Mais certains sont allés plus loin en demandant le changement de ce système qui existe depuis 62. L'annulation, non pas du premier rendez-vous du 18 avril, mais du 4 juillet, dans ce troisième temps. Une radicalisation dans les revendications.
On en arrive justement à la deuxième question. Comment est-on arrivé à cette radicalisation?
Enfin, il y a plusieurs raisons. Parmi les premières, ce qu'on peut remarquer d'un point de vue quantitatif, le mouvement de foule a baissé, c'est-à-dire qu'en termes de volume. Maintenant, pourquoi cette radicalisation? Pour deux raisons simples. Un, par rapport à la feuille de route qui lui a été tracée, à savoir l'organisation des élections et discuter uniquement de modalités techniques. Et de deux, par rapport aux acteurs qui étaient chargés de pilotage. Cet autre élément, c'est la gestion médiatique et communicationnelle.
Est-ce que vous ne pensez pas que le Hirak a échoué de par ses antagonismes à présenter des figures?
Oui, pour une partie, c'est vrai. On est toujours resté dans l'émotion. Il est resté un mouvement sans leader.
Qui sont les promoteurs du Hirak, à votre
On
avis?
ne sait pas. En fait, c'est la grande inconnue. Certains disent que c'est sa faiblesse, que le Hirak, étant dans l'incapacité de dégager des représentants, a fait que le pouvoir de fait, c'est-à-dire celui qui a pris l'initiative et d'imposer sa feuille de route.
Justement, si
Oui.
vous permettez, est-ce que du fait que le Hirak n'a pas pu proposer une solution de sortie, les élections ne s'imposent pas?
En fait, c'est-à-dire que les élections s'imposent, mais le problème, il faut dire que les Algériens, c'est-à-dire dans leur majorité, nous n'avons pas en réalité des éléments palpables qui nous permettent de dire que un pourcentage dont les Algériens sont contre ou pour. Les élections pour les Algériens, pour une grande majorité, elles s'imposent. Néanmoins, la façon les modalités et l'environnement dans lequel se déroulent ces élections qui posent problème.
Très bien, revenons maintenant à l'élection du 12 décembre.
Oui.
À supposer que l'élection ne se tienne pas ou qu'elle soit avortée, est-ce qu'il n'y a pas un risque de glissement pour le pays?
Prime abord, la probabilité que les élections n'aient pas lieu, elle est très faible. Même si avec un taux de participation assez faible, et je crois qu'il prévoit que le taux de participation soit très faible, ils vont faire passer ces élections. Dans le cas contraire, je dirais que l'aller vers le glissement, à savoir vers la violence, me paraît peu probable. Les Algériens manifestent depuis 10 mois, il y a eu des tentatives de provocation, ils ont gardé leur sang-froid, ce caractère pacifique.
Les violences qui sont enregistrées ces 2 derniers jours, notamment chez la communauté algérienne à l'étranger, ne vous inquiète pas.
Pas pour autant. Autant d'un point de vue moral sont condamnables, parce que je considère que, à titre personnel, chaque personne a le droit d'exprimer son point de vue. Les personnes qui sont pour les élections ont le droit d'aller voter, d'exprimer leur choix en allant glisser une enveloppe dans l'urne. Le fait d'organiser, si vous voulez, cette forme d'intimidation serait condamnable d'un point de vue moral.
Comment vous interprétez les procès aujourd'hui?
En fait, les procès, c'est-à-dire que la première remarque qui s'impose, ça détermine le niveau de prédation qui a régné pendant ces 20 dernières années. Et à mon sens, ces procès, il y a d'autres affaires, ce n'est qu'une affaire ou 2 affaires, révèlent l'ampleur si vous voulez, le niveau de déliquescence que les institutions de l'État ces 20 dernières années ont atteint. On n'est pas dans une corruption généralisée, mais plutôt dans une prédation généralisée. La question qui se pose actuellement, c'est que ces procès, considérant l'ampleur des dégâts qui ont été provoqués de la gestion des 20 dernières années, ces procès vont-elles ouvrir la voie à d'autres procès? Deuxième élément, ce qui est plus important encore, est-ce que ces procès vont permettre, si vous voulez, ça peut servir de leçon pour d'autres, vont permettre de récupérer tout l'argent qui a été dilapidé?
Monsieur Chérif Delis, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques.